Chapitre 20. Quand André le convoqua dans son studio, Nathan se sentit plus mal à l'aise qu'excité. Déterminé à recouvrer son don à tout prix, il restait convaincu qu'Ildakar était la clé du problème, du coup impossible de se dérober. À Nietzsche, le vieil homme n'avait pas décrit en détail le laboratoire du sorcier de chair. Quoi qu'en dise André, il ne pouvait pas le tenir pour un artiste, surtout après l'avoir vu charcuter les deux combattants blessés. On eût dit une couturière utilisant des chutes de tissu pour confectionner un kilt multicolore. Mais nul n'obligeait Nathan à admirer, voire à apprécier le sorcier qui l'aiderait. Très excentrique, André avait de quoi flanquer la trouille à n'importe qui, mais c'était bel et bien un détenteur du don compétent. Cela dit, Nathan espérait que son collègue ne l'embarquerait pas dans une démonstration douteuse du genre « guerrier à deux têtes ». Parce qu'il en est bien capable, le bougre. Puisqu'il avait besoin des sorciers d'Ildakar pour redevenir entier, Nathan voulait bien supporter quelques misères, mais il songeait déjà au moment où ses compagnons et lui pourraient mettre les voiles sans demander leur reste. Malgré sa fascination pour la mythique Ildakar, il n'avait pas tardé à repérer les coins d'ombre de ce qui aurait dû être une mégalopole lumineuse, et réhabiliter toute une société n'était pas une tâche à portée de trois malheureux émissaires. En chemin, le vieil homme se demanda si André aurait une solution à proposer pour lui rendre son cœur de sorcier. Une fois dans le jardin, il ne s'attarda pas, mais le traversa en pensant exclusivement à des choses positives, une astuce qu'il tenait du jeune Bannon Farmer. Avant même qu'il ait pu s'annoncer, le sorcier de chair sortit pour l'accueillir.
« Bienvenue, Nathan, qui sera bientôt de nouveau un sorcier !» dit-il d'un ton étrangement enthousiaste.
Sous son menton, sa barbe tressée pointait un peu comme une corne.
« Je suis ravi de reprendre nos recherches. Après le fiasco d'hier dans l'arène, j'ai hâte de prouver ma valeur dans un autre registre. »
Il plissa les yeux.
« Nous allons trouver la solution à ton problème, crois-moi. Pour ça, je ne reculerai devant rien. Et toi ?»
Quelques jours plus tôt, avant de mieux connaître Ildakar, Nathan aurait répondu oui, sans hésiter. Beaucoup moins confiant, il pesa soigneusement ses mots.
« Je suis prêt à collaborer avec toi. Recouvrer mon don est une priorité pour moi. »«
C'est important aussi pour Ildakar. Suis-moi. » Nous avons un peu de cartographie corporelle à faire et des expériences à conduire.
Dans le studio, toujours tendu de tissu sombre, on avait nettoyé les tables qui ne portaient plus trace du sang des deux guerriers. En revanche, une odeur fétide planait encore dans l'air. D'innommables lambeaux de chair flottaient dans de nouveaux bocaux et l'étrange poisson nageait toujours dans son aquarium. En sifflotant, André guida son invité jusqu'à un petit jardin isolé derrière la maison.
« Pour nos nouvelles mesures, il faut être sous le soleil. La cartographie me permettra de reconstituer le schéma de ton don, en d'autres termes, sa configuration à l'intérieur de ton corps et les cicatrices qu'il a laissées un peu partout quand il s'est retiré de toi. Notre boulot sera de faire rentrer les choses dans l'ordre. »
André lissa sa longue barbe.
« Un programme ambitieux, non ?»
Dans le petit jardin, des vignes ondulaient alors qu'il n'y avait pas un souffle d'air. Et des palmiers couverts d'écailles s'élevaient bien au-dessus du toit de la demeure. Leurs feuilles tombantes semblaient acérées comme des lames de rasoir. Leur écorce rappela à Nathan la peau de Brom, le dragon qui veillait sur les ossements de ses semblables dans la vallée de Courotte. Entre deux palmiers éloignés d'environ 6 pieds, on avait tendu un carré de tissu blanc aussi haut qu'un homme. Dessous s'étendait une petite zone de sable blanc.
« Voici le canevas sur lequel nous allons devoir travailler, mon ami !» dit André. « Mais ce n'est pas seulement un banal drap blanc. Avant chaque projet, un artiste doit avoir conscience du potentiel infini de ses modèles. »
En face du drap tendu, sur une table basse, Nathan remarqua plusieurs pots transparents remplis de poudre. Du rouge sombre, du bleu turquoise, du jaune brillant. Le sorcier de chair eut un geste impatient.
« Place-toi devant le drap, voyons. Sinon, comment veux-tu que je dessine ma carte ?»«
Je ne comprends rien à ta cartographie, » dit Nathan en faisant un pas en avant, hésitant. « Comment ça marche ?»«
Les poudres et les autres produits chimiques sont de mon invention. Grâce à ça, je pourrais capter la silhouette de ton aura. Autrement dit, les lignes de force de ton Han. À l'œil nu, je suis incapable de les voir, tout comme toi, mais les poudres servent de révélateurs, comme de la limaille de fer qui matérialise le champ d'attraction d'un aimant.
Nathan vint se placer dans le carré de sable d'eau au tissu blanc.
Comme ça ?
André croisa les bras, agacé.
Tu adores tout compliquer, pas vrai ? Avec ça, étonne-toi d'avoir perdu ton don.
J'ai fait quelque chose de travers.
Tu dois être nu, espèce d'idiot. Pour que les poudres révèlent ton Han, c'est indispensable.
Comment ai-je pu ne pas y penser ?
Marmonna Nathan accablé. Faute d'argument, il retira sa tunique et ses bottes, puis se prêta à la séance de cartographie. Toujours grognon, André étudia les diverses poudres. Puis, il plongea les doigts dans la bleue, renifla et passa à la jaune. Satisfait, il en prit une poignée et approcha de son sujet.
« Que vas-tu ? »
grogna Nathan. Avant qu'il ait fini sa phrase, André projeta la poudre, qui le percuta au centre de la poitrine. Surpris, Nathan tressaillit, éternua, puis baissa les yeux et vit que pas un seul grain jaune n'était resté accroché à sa peau. André prit de la poudre bleue et recommença, visant plus bas. De nouveau, l'étrange substance disparut après avoir percuté sa cible. Nathan sentit un picotement dans tout son corps. Hilar, le sorcier de chair, semblait prendre tout ça pour un jeu. À 6 reprises, il répéta l'opération, obtenant chaque fois le même résultat. Nathan s'avisa qu'il faiblissait, comme si on le vidait de quelque chose.
« On recommence, mais cette fois tu dois essayer d'utiliser ton don. Concentre-toi et choisis un sort facile, une flamme de paume par exemple. »
« Oui, c'était un jeu d'enfant, avant. »
Sur le pont du randonneur des vagues, juste avant la tempête puis l'attaque des Selkas, Nathan avait essayé et découvert que son don ne fonctionnait plus normalement.
« Mais ça peut mal tourner. Parfois le don exécute le contraire de ma volonté. Bref, je risque de flanquer le feu à ta maison. »
Le sorcier de chair ricana.
« Allons, si je n'étais pas capable d'empêcher ça, aurais-je droit au titre de sorcier ? Utilise ton don, c'est un ordre. »
D'instinct, Nathan obéit. Les doigts écartés, il mobilisa toute sa volonté afin qu'une flamme apparaisse dans sa paume. André lui jeta dessus tout ce qui restait d'un pot de poudre. Rien ne se passa. La villa ne s'embrasa pas, et la seule chose qui chauffa, ce furent les joues de Nathan, honteux de son échec.
« Rien ne vient, désolé.
Qu'importe, nous avons ce que nous cherchions. »
Satisfait, le sorcier de chair se frotta les mains pour se débarrasser des restes de poudre.
« Et maintenant, si on admirait notre œuvre ?»
Quand il se fut écarté du drap, les genoux tremblants, Nathan se retourna pour voir le résultat de la séance. Bizarrement, l'essence de la poudre projetée par André avait traversé le corps de sa cible pour venir s'accrocher sur le drap. Désormais, des lignes multicolores y dessinaient ce qui évoquait une carte des courants marins ou un relevé de la trajectoire des cours d'eau dans une chaîne de montagnes. Mais ces lignes composaient aussi la silhouette d'un homme, Nathan pour ne pas le nommer.
« C'est mon don ? Sa configuration en moi ?»
André acquiesça.
« Une image de ce qui devrait être, oui. Mais tu vois le problème, j'imagine. Regarde bien, là. »
Oubliant sa nudité, Nathan céda à la fascination d'autant plus aisément qu'il n'avait pas dû souffrir ni verser de sang. André désigna le centre de ce qui représentait la poitrine de son sujet.
« Tu vois cette pâleur ? Ce vide, à l'endroit où devrait être ton cœur, c'est par là que ton Han s'est enfui. Le don est présent dans chaque vaisseau, chaque fibre musculaire, chaque morceau de peau et même chaque cheveu. Partout, sauf dans ton cœur. Vois-tu ce que tu as perdu ?
Nathan sentit un poids écrasant sur ses épaules. Oui, il voyait. L'étrange carte de son corps était limpide.
« Mon Han n'est plus là. »«
C'est ça. »
Méticuleux, André remit les couvercles sur ses pots de poudre.
« Mais ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas le remettre en place. Si nous trouvons ce qui manque, ce sera facile. Et je suis à la hauteur du défi, tu peux me croire. Les autres sorciers seront soulagés d'apprendre que ton mal n'est pas contagieux, comme je l'ai toujours pensé. »
C'est une très bonne nouvelle pour moi aussi.
Te guérir n'est pas hors de notre portée. Comme tu le sais, les sorciers d'Ildakar ont créé des choses extraordinaires.
Nathan tenta de ne pas laisser transparaître ses doutes.
J'ai vu une partie de ton œuvre de sang. Certains t'accuseraient sans doute de bizarrerie, pour ne pas dire plus. Tu te présentes comme un artiste, et voilà que tu prétends me soulager de mon mal. Serais-tu aussi guérisseur?
Les guérisseurs et les tortionnaires sont les experts d'un seul et même domaine. Tous en savent long sur la douleur, le courage, la vie et la mort. En la matière, je suis un expert. Bon, il faut que je te montre quelque chose dans une autre aile de ma maison. Rhabille-toi. Les vieillards nus ne sont pas ma tasse de thé.
Nathan eut un grand sourire.
Si tu savais comme je suis soulagé d'entendre ça.
Après avoir remis sa tunique, il s'assit sur un petit banc pour enfiler ses bottes. Pour passer le temps, André se lança dans une tirade.
En des temps reculés, face à bien des ennemis, nous avons dû créer des armes assez puissantes pour défendre la ville et sa population. Tu as vu comment nous avons surélevé la plaine au bord du fleuve Chasse-Corbeau? Et qui a-t-il de plus puissant qu'un sort capable de pétrifier 500 000 hommes? Ou que la magie de sang qui génère le linceul de l'éternité?
C'est très impressionnant, concéda Nathan.
Il se leva et tapa des pieds sur le sol pour bien les caler dans ses bottes.
Moi-même, j'ai créé de véritables dieux de la guerre. J'en suis si fier, si tu savais. Tu voudrais les voir?
Nathan tira soigneusement sur les plis de sa tunique verte.
Ces combattants ont-ils aidé ton camp à gagner la guerre?
À l'époque, je n'ai pas eu l'occasion de les utiliser, mais ils sont toujours prêts. Suis-moi, je veux te les montrer.
Nathan emboîta le pas à son hôte qui le conduisit dans une salle au plafond très haut.
Je les ai baptisés guerriers Xax,
annonça André.
Limité par le conseil, je n'ai pu en créer que 3. Mais ce serait suffisant pour défendre notre ville contre les plus terribles ennemis.
André écarta un rideau pour révéler 3 géants immobiles de 15 bons pieds de haut. Les Xax, de forme humaine, avaient un torse et des épaules 2 fois plus larges que la normale et une tête de la taille d'une roue de charrette. Comme une carapace, une armure hérissée de clous couvrait leurs bras énormes, leur taille et leurs cuisses grosses comme des troncs d'arbres. Un casque intégral aux allures de chaudron protégeait leur visage, laissant simplement une fente pour la bouche et une autre pour les yeux. Aux mains, ils portaient des gants de fer munis de piques, comme la ceinture qui supportait leurs armes. Leurs bottes, enfin, semblaient assez grandes pour piétiner un cheval. Les bras contre les flancs, ils ne bougeaient pas, comme si leurs pieds étaient cloués au sol.
« Admire mes guerriers !»
s'écria André.
« Je les ai créés il y a 15 siècles de ça, lorsque l'armée de l'empereur Kourgan s'est mise en marche contre nous. À partir de 3 humains ordinaires, j'ai mobilisé tout mon savoir et toute ma magie pour donner naissance à des armes géantes et indestructibles. Les plus puissants guerriers qui aient jamais arpenté ce monde. Un seul Xax est assez fort pour massacrer 5 000 soldats adverses en un rien de temps. C'est pour ça que je les ai conçus. »
Il caressa le gant d'un des géants.
« Ils sont parfaits et prêts à tout, comme ils l'étaient il y a 15 siècles. »
Imaginant une armée non informée face à ces titans, Nathan fut très sincèrement impressionné.
« Ils sont en stase, prisonniers du temps jusqu'à ce que tu les libères ?»«
Non, ils sont prêts au sens strict du terme. » Si la cité était attaquée, aucun retard ne serait acceptable.
Que veux-tu dire?
Ces 3 Xax sont éveillés et conscients depuis leur création, mais ils ne peuvent pas bouger.
Conscients? Répéta Nathan, soudain très mal à l'aise.
Un sort très simple les immobilise, mais ils nous entendent en ce moment même.
Peuvent-ils au moins dormir?
Demanda Nathan, redoutant la réponse.
« Non, ils sont éveillés en permanence. Ces armes vivantes étant notre dernier recours, nous ne pouvons pas nous permettre d'être pris par surprise. Les Hyksax n'ont rien à faire, mais ce sont des sentinelles qui pensent sans cesse à leur devoir qu'elles devront peut-être accomplir un jour. »
Nathan recula d'un pas. Comment comprendre le cauchemar que vivaient ces trois pauvres types, qu'ils se soient ou non portés volontaires pour l'expérience? Métamorphosés par le sorcier de chair, ils subissaient chaque seconde de chaque jour depuis 1500 ans. Nathan frissonna de terreur. À ce régime, les titans devaient être fous alliés. À travers la fente d'un casque, le vieil homme aperçut les yeux jaunes rivés sur lui.